Bonsoir Alexandra.
Bonsoir Sabine, bonsoir à tous les auditeurs.
Voilà, les auditeurs vous écoutent en même temps que moi. Donc, de quoi souhaitez-vous nous parler ?
Excusez-moi si je suis un peu hésitante, j'ai un peu le trac.
Ah, vous inquiétez pas, vous verrez, dans 2 minutes ce sera passé. Vous oublierez qu'il y a les auditeurs qui nous écoutent et on sera juste en dialogue toutes les deux. Dites-moi les choses comme elles vous viennent.
J'ai déjà appelé il y a un peu plus d'un an.
Oui.
Pour le même sujet.
Oui.
Parce que ma maman était très malade, puis elle est décédée.
Ah.
Le 10 juin, ça fait un an.
Oui.
Et c'est vrai que je souhaitais parler du deuil.
Oui.
Et que peut-être, alors, je ne sais pas si le terme est heureux ou pas, que vous me serviez peut-être un peu de boussole.
Oui.
Si vous voyez ce que je veux dire dans...
Vous vous sentez désorientée ?
Pas vraiment, mais je me dis peut-être que je me suis un peu perdue, que je ne me rends pas compte. Alors après, je sais qu'il n'y a pas forcément de normalité, mais est-ce que dans mon processus de deuil,
oui.
Je suis, disons, sur un chemin qui est plutôt encourageant ?
Oui.
Ou est-ce que peut-être je me suis un peu perdue sans m'en rendre compte ou... Et puis après... On se pose des questions, je veux dire, c'était quelqu'un de très proche.
Oui.
Ça a été quelque chose de très dur. Je vivais avec elle. J'ai eu un parcours de vie particulier, assez, comment dire, dur, très
oui.
dur. Et c'est vrai que...
Vous aviez toujours vécu avec elle ou vous l'avez retrouvée récemment, enfin, au moment de sa maladie ?
Avec elle.
Oui. D'accord.
Ouais.
Ah oui, donc c'était une relation très forte.
Oui, et même si j'essaie d'avoir des relations avec des hommes, enfin de... Voilà, j'ai vécu à temps partiel, si vous voulez.
Oui.
Avec certains, mais bon, et puis j'ai eu des problèmes de santé, et donc j'ai été quittée. Et là-dessus, ma maman est tombée très malade, et une maladie des poumons incurable, une maladie rare. Dû à une autre maladie rare, on ne sait pas laquelle.
Et donc, ce qui signifie que vous avez certainement connu des moments d'incertitude et d'angoisse pendant la maladie de votre mère, si c'était quelque chose de rare, de peu connu.
Ben, disons qu'il n'y avait pas énormément d'informations à disposition. Elle s'est retrouvée aux urgences parce qu'elle était en détresse respiratoire.
Oui.
Et elle était en soins intensifs, ouais, ça a été très dur, hein, mais bon, c'est vrai que le problème, c'est que je n'ai pas eu l'occasion de parler en tête-à-tête à son docteur,
oui.
ou à un médecin, et avoir peut-être certaines explications qui m'auraient aidé à m'occuper d'elle, parce que j'étais son aidante.
Vous avez l'impression que tout n'a pas été fait pour elle ? Ou que vous n'auriez pas tout fait pour elle ?
Ben, moi j'ai un peu l'impression que j'aurais pu faire mieux. Et je culpabilise un petit peu. Et alors après, d'un côté, d'un point de vue rationnel, je me dis que non. Et puis, d'un point de vue émotionnel, je me dis que j'aurais pu faire mieux. Mais c'est vrai que physiquement, c'est extrêmement dur.
Oui.
Déjà, pour quelqu'un qui n'a pas de problème de santé, c'est dur. Et pour quelqu'un qui a des problèmes de santé, à assumer, elle était alitée. Elle avait d'autres problèmes, des descentes d'organes, donc il y avait une chaise percée. Donc il y avait. J'étais un peu aide-soignante et infirmière.
Ça,
il y avait une machine à oxygène à gérer aussi, enfin tout un tas de choses.
Oh, c'est très lourd ce que vous avez vécu. Donc votre maman était à la maison, donc elle n'était pas tout le temps hospitalisée, c'est ça ?
Non, elle a été 2 fois hospitalisée, 1 mois, puis 3 semaines, et une autre fois 1 semaine. Et puis, en fait, elle... Il n'y a pas eu vraiment de soins palliatifs à l'endroit où elle a pu être accueillie et profiter de soins palliatifs. Elle n'a pas pu profiter de ça et on lui a dit à cet endroit où aller, mais c'était trop cher.
Oui.
Parce qu'elle était à la retraite et elle avait 71 ans, donc elle n'avait pas les moyens. Moi, j'étais en invalidité avec un dossier adulte handicapé en cours.
Et donc, ça, Alexandra, votre maladie à vous, elle datait de combien de temps avant? Quand êtes-vous tombée malade?
J'ai des problèmes de santé déjà depuis toute petite.
Ah.
Et j'ai depuis l'adolescence, je vois beaucoup de médecins, je fais beaucoup d'examens, il y a eu des... j'ai au niveau du système nerveux autonome, j'ai un dérèglement.
Oui.
Bon, bah, ça s'est été loin de trouver. J'ai eu beaucoup de « vous êtes folle, c'est dans votre tête, c'est psychosomatique ». On m'a beaucoup sorti ce genre de choses, mais moi, mon fond intérieur, je savais que c'était faux.
Oui, vous faisiez la différence entre des troubles psychiques et des troubles neurologiques.
Oui, puis je me suis penchée sur la question parce que j'ai eu des maltraitances quand j'étais toute petite, donc ça a créé un...
Des maltraitances de la part de qui?
De mon père.
Oui.
Jusqu'à l'âge de 7 ans.
Oui.
J'ai trois frères qui sont plus âgés et puis il était alcoolique et violent aussi, mais quand j'ai eu 6 ans, ma maman est partie pour nous protéger, mais sur le moment, elle n'a pas su tout ce qui s'était passé, quoi.
Oui.
Je gardais le silence parce qu'il menaçait de la tuer et il avait des fusils, il savait s'en servir puisque c'était un chasseur.
Oui, c'était des menaces, mais avec un côté extrêmement dangereux.
Et je l'ai déjà vu, j'avais déjà vu courir après, la menacer, je savais de quoi il était capable. Donc, je n'ai rien dit et j'ai tout gardé. Puis, quand on est parti, je me suis permis de pleurer, mais sans expliquer pourquoi. Après, je ne me souviens plus de quand j'en ai parlé, mais je sais qu'à un moment, j'ai voulu aller voir un psy pour en parler quand j'avais 13 ans.
Et, oui.
Mais ça n'a pas fonctionné, mais le... Mais,
donc vous avez rencontré quand même le psy ou c'est le...
Non mais parce que la dame elle souriait et elle me disait rien et moi ça me convenait pas du tout.
Je crois que ça convient pas à grand monde d'être face à quelqu'un qui est silencieux et qui ne s'implique pas dans le lien.
Je me disais il devait y avoir un statut de Jeanne d'Arc là où je vais, autant aller parler à Jeanne d'Arc. Ça serait pareil, mais bon, j'étais peut-être pas très gentille, mais...
Vous aviez parfaitement raison, c'est que je crois qu'on peut dire que l'esprit de la thérapie, c'est pas de laisser la personne qui parle face à sa solitude et à démêler elle-même ses nœuds, c'est vraiment d'entrer dans le lien avec elle
plus,
et de l'accompagner. Puis même tout le temps, déjà une personne souffre, si en plus elle est confrontée à la solitude, au silence et à la froideur, c'est une épreuve de plus, ça peut pas marcher.
Ben, c'est vrai. Ouais. Mais j'ai réessayé au plus tard. Et puis finalement, j'ai fait des petites dépressions qui a été soignée à coups de Prozac.
Oui.
Ça a marché, ça allait mieux après. Puis c'est vrai que j'ai vécu beaucoup d'épreuves. C'est vrai que...
Des épreuves dans votre vie amoureuse, si j'ai bien compris. Ça a été compliqué de ce point de vue.
Non, c'était pas le plus dur. Bon, ça a été En fait, j'ai fait une décompensation quand j'ai eu 31 ans. Et ça, c'était lié, oui, à ma relation amoureuse. Ça a servi
quand vous dites une décompensation, sur quel mode? Sur le mode de l'angoisse, de la dépression, de... Quel genre de décompensation?
La dépression, l'angoisse... J'étais extrêmement mal, dans une souffrance terrible.
Oui.
J'avais déjà eu un suivi pendant 3 ans avec une psychologue et un psychiatre dans un centre pour jeunes.
Alors pour ceux qui nous écoutent, Alexandra va expliquer ce que c'est qu'une décompensation. Donc,
une dépression comme un météo.
Oui, alors la décompensation, ça peut être sur plusieurs modes en fait. On considère
ça s'est effondré, mon psychisme s'est effondré, tout est... Je n'étais plus capable de travailler, je n'étais plus capable de vivre, je pleurais tout le temps.
C'est ça, un équilibre s'est effondré.
Ah oui, totalement. Oui. Je me suis totalement effondrée parce que j'avais cet homme dans ma vie dont j'étais éperdument amoureuse et qui ne pouvait pas être libre, qui a choisi de ne pas l'être. Il était marié.
Oui.
Moi, je croyais au prince charmant. Je croyais à un homme qui pourrait un peu me sauver, me guérir de toutes les souffrances que j'avais eues. Et le travail que j'avais fait sur moi n'était peut-être pas encore assez avancé pour comprendre que ça marchait pas comme ça.
Oui, vous avez raison.
Et quand j'ai compris, ça a été terrible. Et j'ai eu d'autres déceptions au niveau du travail et tout ça a fait que, voilà. Bon. Et bon, il a fallu faire un travail sur moi-même et ça a été dur d'avoir un diagnostic.
Oui.
Et ça a été dur d'avoir des outils.
Et il y a eu un diagnostic?
Oui. Le trouble de la personnalité limite.
Et oui, c'est ce qu'on appelle les états limites. Bon.
Oui, ouais, entre l'état névrotique et psychotique, oui.
Oui, c'est ça.
Enfin, oui, pardon.
Oui, c'est ça. Bon, pour ça, là aussi, pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y a une discussion entre les psychanalystes ou les thérapeutes sur les états limites. Effectivement, quand on fait un diagnostic psychique, on essaie de savoir selon quelle structure est organisée psychisme et grande structure, c'est la névrose, la psychose, la perversion. Et il existe une catégorie qui a été théorisée, donc d'état limite. Alors certains disent que les états limites n'existent pas et qu'on diagnostique l'état limite quand on ne sait pas faire un diagnostic différentiel entre la psychose et la névrose. Et pour d'autres, les états limites, c'est une catégorie à part. Mais en tout cas, sur vous, donc on a posé ce diagnostic. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des épisodes de délire ou des choses comme ça?
Alors, moi, je dirais que il y avait une énorme anxiété.
Oui.
Et que ça donnait un peu des épisodes dissociatifs.
D'accord.
Je n'ai jamais fait vraiment de psychose délire, sauf quand une fois, on m'a voulu me donner un neuroleptique.
Oui.
Parce que j'avais des pensées suicidaires.
Oui.
Et là, j'ai eu vraiment un état, j'ai su ce que c'était, quoi.
Donc c'est plutôt, normalement le neuroleptique c'est censé soigner le délire et vous avez...
J'ai eu une réaction, je ne sais plus quel est le terme.
Paradoxal.
Voilà, complètement, et en plus physiquement aussi, j'avais de la fièvre et tout, on m'a dit d'arrêter en urgence. Et,
oui.
Et ça a été une très mauvaise expérience. Et malheureusement j'ai eu des... Dans les soins qui m'ont été apportés, j'ai eu des... une maltraitance.
Oui.
Et ça m'a énormément traumatisée. Et j'ai continué malgré tout à faire un travail toute seule parce que j'ai découvert la méditation de pleine conscience.
Oui.
J'ai fait des lectures.
Oui.
Ça m'a énormément aidée. Je ne remercierai jamais assez. Comment il s'appelle ? Christophe André ?
Ah oui.
Oui. Ah oui, ouais, vraiment, c'est. Ouais, ouais,
c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit et qui effectivement accompagne aussi des pratiques de méditation pleine conscience. Oui.
Et j'ai pu échanger quelques mails avec lui et que vraiment un homme très gentil et très à l'écoute des autres. Et ça m'a beaucoup aidée. Puis ses amis Mathieu Ricard ou Alexandre Hamas, j'ai oublié son nom.
Oui.
Vous devez voir de qui je parle.
Alors là, Christophe André, je vois bien, mais la personne dont vous parlez.
Le philosophe suisse qui a un handicap psychomoteur à cause de suite à sa naissance.
Et là, en fait, quand vous dites que vous cherchez une boussole aujourd'hui, de quoi avez-vous besoin maintenant, Alexandra? Parce que j'ai le sentiment que vous êtes, que dans la méditation pleine conscience, vous trouvez une forme d'orientation. Donc vous êtes à l'abri de la maltraitance, vous prenez la main sur des pratiques qui peuvent vous apaiser, vous recentrer.
Oui, oui,
donc de quoi avez-vous besoin?
J'ai eu de la sophrologie aussi, ça m'a beaucoup aidée.
Oui.
Et pour essayer de faire court, en fait, au moment à peu près où ma maman est tombée gravement malade, sur le chemin de la guérison, j'étais, disons, à peut-être 80-90%, quoi. J'étais vraiment... je n'avais pratiquement plus de symptômes.
Oui.
C'était surtout plus de l'anxiété. J'étais... Je ne me faisais plus de mal, je faisais plus de tentatives de suicide, ça c'était parti, j'étais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux.
Oui.
Et c'est vrai qu'avec ce qui est arrivé ensuite, ensuite j'ai eu des problèmes de santé somatique qui se sont déclarés,
oui,
il y a 7 ans, 8 ans. Et là, il n'y a pas eu vraiment de diagnostic. On parle de maladie rare, c'est vraiment compliqué. Et comme un moment est tombé malade, ben j'ai mis tout ça de côté. Et donc, je prenais plus soin de moi, quoi, en fait.
Oui. Dans ce que vous dites, puisque vous parliez de boussole, Alexandra, j'ai l'impression que vous aviez trouvé une boussole dans cette pratique de méditation en pleine conscience qui, quand elle est suivie avec une certaine discipline, une certaine persévérance, c'est quelque chose de puissant qui peut vraiment être facteur de guérison. J'ai l'impression que ça vous orientait et ça vous tenait, c'est quelque chose qui vous allait bien dans cette pratique-là.
Oui, mais c'est vrai qu'après, ben, du coup, j'ai lâché tout ça, puisque à cause de mes problèmes de santé, quand même suffisamment graves pour qu'aujourd'hui je me déplace avec un déambulatoire. Toute l'énergie que j'avais, c'était pour m'occuper de ma maman,
oui,
qui à cause de tout, en plus ses traitements de cortisone, a pris énormément de poids, donc physiquement c'était dur de relever quelqu'un qui avait pris énormément de poids, qui... J'ai vu c'était douloureux de voir sa maman souffrir comme ça. Puis
bien sûr.
Covid. Premier mois, j'ai bien tenu et à partir du deuxième mois, ben, j'ai commencé à aller moins bien, quoi.
Aujourd'hui, Alexandra, ce qui me paraît sûr, c'est que vous avez besoin de rapatrier toute l'énergie que vous avez mise dans le soin à votre maman. Vous avez besoin de la rapatrier pour vous. Ça me semble vraiment une priorité. Donc si la méditation vous permet de rapatrier cette énergie de façon focalisée, canalisée, ça me semble un excellent axe. En tout cas, c'est rapatrier vos forces vitales pour vous, parce qu'elles ont été beaucoup tournées vers le soutien à votre mère, qui peut produire une guérison morale. Donc je crois que là, si vous pouvez reprendre cet axe qui était le vôtre, celui de la méditation, si vous avez une confiance dans les pratiques et dans Christophe André, ça me paraît très bien de reprendre ça maintenant.
Oui, c'est vrai que c'est une idée judicieuse, mais oui. Ce que je voulais savoir, surtout, c'est que donc ça fait un an, il y a eu... tous les jalons, les dates anniversaires. Et donc, pour arriver à la date anniversaire des 1 an, et ça a été très difficile à passer. En plus, j'ai dû arrêter de fumer parce que financièrement, il fallait que je puisse m'assumer, quoi. Donc, tout ça. Et bon, évidemment, elle me manque énormément, c'est très dur. Mais j'ai l'impression que malgré tout, je ne m'en sors pas trop mal. Mais est-ce que je m'en sors vraiment pas trop mal ou pas? C'est la question que je me pose.
Oui, bien sûr que vous vous en sortez pas trop mal, pour la simple raison que vous êtes debout et que vous avez envie d'aller mieux. Sinon, vous ne nous appelleriez pas et vous ne poseriez pas cette question. Donc je pense que ce qui est très rassurant dans ce que vous dites, c'est que vous n'êtes pas submergé par le deuil au point de dire que votre vie n'a pas de sens et que votre personne n'a pas d'importance. Je pense que le deuil, étant donné la proximité que vous aviez avec votre maman et la façon et le côté dramatique de sa fin de vie, je crois que ça ne va pas s'estomper comme ça. Mais je pense que ce qu'on peut faire, ce n'est pas arrêter le deuil ou le faire disparaître, c'est faire en sorte que quelque chose devienne plus fortement investi. Et cette chose plus fortement investie, c'est le soin à vous-même et la reprise de cette pratique qui semble vous aller bien et dans laquelle on peut vraiment trouver beaucoup de ressources quand elle nous convient. Donc je pense que pour l'instant, on ne peut pas attendre que votre deuil disparaisse, mais je crois que c'est vraiment en pariant sur cette ressource-là qu'il pourra s'estomper et devenir moins douloureux.
Mais par exemple, le fait que je n'ai pas encore pu m'occuper de toutes ces affaires, parce que...
Je pense que ça, ça viendra. Mais la première chose à faire, c'est de vous remettre, de rapatrier vos forces vitales et de retrouver cette énergie de vie que vous pouvez mettre ensuite au service de vos projets. Je pense que c'est vraiment la priorité. Donc vraiment, je vous inviterai à vous concentrer dans cette voie de la méditation. Suffisamment longtemps, vous le savez, hein, faut pratiquer un peu pour qu'il y ait des résultats. Et ensuite, vous verrez pour les choses pratiques. En tout cas, Alexandra, n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles. Vous l'avez fait il y a un an, n'hésitez pas à le faire. Je vous invite vraiment à vous plonger dans cette pratique, puis n'hésitez pas à nous dire si ça vous apporte un mieux.
Mais excusez-moi, juste une dernière question, mais le fait de culpabiliser un peu, c'est normal dans le processus?
En fait, le fait de culpabiliser, c'est de retourner quelque chose contre soi dans le deuil. C'est-à-dire, comme on ne peut pas être en colère contre la personne de nous avoir abandonné ou nous avoir fait vivre une épreuve, nous retournons cette colère contre nous sous forme de culpabilité. Donc ça se retourne dans l'autre sens. Ça, c'est un processus tout à fait normal. Et je pense que sa culpabilité s'estompera avec l'augmentation de vos ressources vitales, tel qu'on le disait là, donc par la méditation. Donc vraiment, courage à vous Alexandra, vraiment je vous recommande à persévérer et n'hésitez pas à nous dire si ça vous soulage.
Oui, d'accord.
Bon courage à vous.
Sabine Caligari sur RTL, parlons-nous.